À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonsoir Laurent. Bonjour Dominique.
Bonjour Alain, bonjour Laurent.
Alors, dernière émission de cette saison, enfin de l'année plutôt, pas de la saison, sur Couleur FM 97.1. Donc on en profite déjà pour souhaiter une bonne fin d'année à tous nos auditeurs et un bon début de la prochaine année 2016. Aujourd'hui, on va faire une petite revue de presse rapide, notamment de journaux, Il Corriere della Sera et La Repubblica, deux des grands journaux italiens. Alors, que trouve-t-on dans ces magazines, enfin dans ces quotidiens plutôt? Alors, pour Il Corriere della Sera et La Repubblica, on parle beaucoup de politique ces derniers jours, et notamment des élections en France. On s'y attendait un petit peu, mais donc là, un gros développement sur les élections régionales en France et leurs conséquences au niveau européen, voire italien. Alors, pour ce qui est des élections en France, si on regarde par exemple Il Corriere della Sera, on parle en titre, une brève alliance contre la peur, et on parle aussi d'une avancée retentissante de l'extrême droite, même si elle n'a aucun président de région. Alors, dans le développement, on souligne notamment que Madame Le Pen est à la tête du premier parti de France, mais qu'elle n'a a priori aucune chance de devenir de présidente de la République, mais que tout cela crée une tension par une entorse un petit peu à la démocratie par rapport au nombre de votants. Et puis, il y a une analyse très fouillée où on fait le parallèle entre Madame Le Pen et sa nièce. On parle aussi beaucoup du don du sang des socialistes. Voilà comme sont interprétés les retraits des deux listes dans les deux régions, Pas-de-Calais et PACA, qui ont beaucoup fait parler. On parle un peu de notre ancien président, c'est-à-dire M. Sarkozy, en disant on souligne qu'il a des problèmes dans son parti et qu'il n'en a pas fini avec ses soucis judiciaires. On parle de ses antagonismes avec notamment M. Fillon et Mademoiselle ou Madame Kosciusko-Morizet. On parle aussi, tout en parlant du Front National, on parle aussi de la position ultra-droitière de certains éléments de droite. Et on parle notamment de Laurent Wauquiez, qui est assimilé dans les idées au Front National. Encore une fois, c'est le Corriere della Sera. Et puis, on dit que la fin « heureuse » entre guillemets du résultat des régionales n'est qu'apparente et que la société française est en train de vivre un mal profond qui est une maladie qui pourrait s'aggraver si les incertitudes demeurent quant au projet politique. On parle du silence complet de Hollande et puis du positionnement de M. Manuel Valls. Voilà comme sont vues les élections françaises à travers une loupe, on va dire, italienne, Il Corriere della Sera, là, mais La Repubblica a fait pratiquement la même analyse. Et elle parle, elle, de front républicain, un petit peu comme on l'entend d'ailleurs en France. Sinon, on parle encore des événements du 13 novembre, en disant que sur l'ensemble des décès qu'il y a eu suite à ces attentats, il y avait en fait 19 nationalités parmi les gens qui sont malheureusement décédés. Sinon, on parle aussi, hormis de la France, on parle de la future élection en Espagne, qui est ces jours, pour renouveler le Parlement, et on s'arrête notamment dans le Corriere della Sera sur Podemos, ce parti, enfin ce nouveau mouvement plutôt, qui a donné beaucoup d'espoir à une certaine partie de l'Espagne. Mais le journaliste du Corriere souligne qu'il est passé en un an de 28% à 14%, et on parle, pour Pablo Iglesias, qui en est le leader, d'une étoile qui petit à petit pâlit. Et on dit même qu'il est en train de fatiguer une grosse partie des Espagnols. Mais on dit quand même que, tout en soulignant qu'il est passé du phénomène, du statut de phénomène au statut de mythomane, on dit quand même qu'il n'a sans doute pas dit son dernier mot parce qu'il a une grosse personnalité. Voilà donc deux pays d'Europe vus au travers d'une loupe italienne. Sinon, les autres sujets développés, bien évidemment, il y en a beaucoup, mais je parle surtout là des titres et des premières pages. Dans la Repubblica, par exemple, on parle du passage de la société Pininfarina, qui est une vieille société italienne qui date de 1930, qui travaille beaucoup dans le domaine automobile, mais surtout dans le design de la carrosserie, puisqu'ils ont travaillé sur des voitures non seulement italiennes, mais même françaises. Eh bien, cette société, la holding Pincar, qui gère la société, qui contrôle à 76% la société Pininfarina, vient de passer sous la coupole, on va dire, indienne de la société Mahindra. C'est-à-dire que Mahindra, je ne sais pas comment on prononce, c'est un mot indien, c'est-à-dire que cette société indienne prendrait la majorité du capital de Pininfarina. Le dirigeant actuel de Pininfarina souligne que la société est et restera quand même italienne. Affaire à suivre. Sinon, il y a une interview aussi de Marchionne, qui est le président de la Ferrari, et enfin du groupe, de toute façon de tout le groupe, et qui parle du possible retour en Formule 1 d'Alfa Romeo. Alors, il faut savoir qu'Alfa Romeo était bien présent en Formule 1 dans les années 50. Et il dit que cette marque restant toujours dans le cœur des Italiens, il leur paraît logique de tenter un retour d'Alfa Romeo en Italie, dans la Formule 1 plutôt, au niveau international, mais pour l'Italie. Alors Alfa en Formule 1 avait eu des titres en 1950 et en 1951 par Nino Farina et par le célèbre Juan Manuel Fangio. Et l'arrêt d'Alfa en Formule 1 en tant que compétiteur, puis après en tant que fournisseur de moteurs, a été dans les années 80, 88 exactement. Sinon, on a aussi une interview de Renzo Arbore dans le Corriere della Sera. Renzo Arbore, c'est un chanteur italien qui a chanté dans tous les pays du monde, on peut dire, qui est en même temps qui a été animateur de télévision, qui est toujours, je crois, directeur du festival Umbria Jazz, comme disent les Italiens, et qui développe, qui va publier une autobiographie qui s'intitule Et si la vie était une jam session, où il parle de sa carrière, de toutes ses femmes, dont Gabriella Ferri, la célèbre chanteuse romaine. Il parle de son enfance bourgeoise, de tentation qu'avait eu son père de suivre Mussolini, et puis après il l'a considéré pas très intelligent, donc il s'en est écarté. Il parle aussi de ses rapports avec la politique en général, de la RAI, de Renzi, qui selon lui tente de redonner aux Italiens l'orgueil d'eux-mêmes. Et il parle, c'est assez intéressant, il parle de la chanson, et notamment de Dalla, de Fabrizio De André et de Francesco De Gregori, en disant qu'on devrait traduire leurs textes ou les passer en langue originale dans beaucoup de pays du monde. Ce serait un beau moyen de parler de la culture italienne. C'est vrai qu'ils sont malheureusement pas très connu en dehors de l'Italie. Voilà, sinon on arrive à la période de Noël et de la fin de l'année. Alors évidemment, ce sont des fêtes qui sont fêtées en Italie comme ici en France. Et chaque année, on vous reparle des crèches, des traditions liées à Noël ou au passage d'une année à l'autre. Là, aujourd'hui, J'ai simplement envie de parler de repas oui. qu'on peut faire, oui. hein, de faire la fête, en oui, fait, tout, hein, tout fait. Simplement. Hein, mmh. C'est bien utile en ce moment de faire la fête. Alors, il existe un proverbe en Italie qui dit « Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi ». C'est-à-dire, bah, passe Noël avec les tiens et puis Pâques, bah, tu le passes avec qui tu veux, en fait. Hein. Alors, si on parle proprement de repas, alors en Italie, on fête effectivement Noël, mais pour ce qui concerne des tables elles-mêmes, on mange le soir du réveillon, hein, c'est-à-dire le 24 décembre, et on dit là qu'a priori, on doit manger léger, on fait maigre. Pourquoi ? Parce que on ne doit pas manger de viande ce soir-là, parce que dans l'Antiquité, c'était le repas des riches.
Ah oui.
Donc, on devait faire maigre et on mangeait le plat du pauvre qui, à l'époque, était le poisson. Alors, le poisson, maintenant, les habitudes ont changé et le poisson est devenu un plat...
Un produit un peu cher.
Oui. Mais du coup, la tradition, je vais y arriver, a quand même été gardée. C'est-à-dire que pour le réveillon, on mange du poisson. Mmh. Et... après le repas de ce réveillon, c'est là qu'on ouvre les cadeaux pour tous les membres de la famille. Et voilà. Et puis, alors certaines familles font comme en France, ils attendent le matin de Noël pour ouvrir les cadeaux. Sauf qu'en France, ils sont plutôt réservés aux enfants, alors qu'en Italie, ces cadeaux de Noël sont un petit peu à tout le monde. Et puis on reporte Alors, les enfants les ont là aussi, mais ils les ont après à la Befana, enfin,
ah,
l'Épiphanie.
Oui. Hein. C'est vrai.
Voilà. Voilà, alors la tradition souligne que c'est normalement Gesù Bambino qui amène les cadeaux la nuit. Bon, après, ça a été américanisé par le Père Noël, tout à fait. Hein. Alors, sinon, le jour de Noël, qu'est-ce qu'on mange ? On mange pas mal. Hein. On mange de la viande, bien sûr, là, puisqu'on n'a pas à faire maigre le jour de Noël, et puis des gâteaux, et puis alors la tradition, suivant les régions, hein, tout, encore une fois, la cuisine italienne, on ne peut pas dire qu'elle est unique parce qu'elle est propre à chaque région, mais on mange une sorte de bouillon avec pas mal de choses à l'intérieur, de la viande bouillie, mais de qualité, hein, avec des bouillies raffinées, on va dire. Sinon, on mange aussi, comme en France, du chapon, on mange du rôti aussi, et puis on mange des gâteaux, bien sûr, qui sont différents d'une région à l'autre d'Italie, puisqu'il y en a qui sont très riches, avec des fruits confits, avec du beurre, avec des œufs, avec des fruits secs, type par exemple panforte qu'on trouve en Toscane. Et puis on mange aussi d'autres types de gâteaux plus légers, comme celui qu'on connaît bien en France, comme le panettone milanais ou le pandoro de Vérone, voilà, qu'on trouve dans toute l'Italie. Sinon, pour le jour de l'an, ben, on fait un gros réveillon comme en France, hein, le cenone, et c'est un plat, on a des plats très riches, avec, par exemple, si on est dans la région de Bologne, le zampone, qui est la cuisine de Bologne ressemble beaucoup à la cuisine lyonnaise, d'accord. D'abord, qui est une sorte de partie du cochon que l'on fait cuire, une sorte de pied, avec des lentilles qui sont beaucoup mangées dans le nord, et, mais aussi dans le sud et le centre. On dit que les plus fameuses sont en nombril. Alors les lentilles, pourquoi ces petits légumes qui sont écrasés ? Parce qu'elles représentent des petites pièces de monnaie et donc elles portent chance. Voilà, on dit que si on mange des lentilles le soir du réveillon, on n'aura pas de problèmes d'argent pour commencer l'année. Voilà, on va écouter une première chanson de Hélène Aleda, qui est une chanson qui est une sorte de prière d'une mère pour l'avenir de son enfant qui vient de naître et qui s'appelle Anninare.
No coro de mamma, coro su cugione de soro ninna. Non saprendate di amante che su sole brillante ninna. No
de verano giarminu bantu de su giardinu no sueti la sadita disia beneita ninna mo anni anni sugo solo de mamma ma nu giute se famma no affamasias giutu e tenzas bonu frutu inna no si andade valore chi diventa sonore no anni anni in totu sa Sardigna sia sbonu i sabina no e gai di canto come chi resta smere in domo oh in domo resta smere chi in tuo viagere no, ascoltami e intende come inteso narende ascoltavi zugaru chi sia sbonu e raru no, annini, anninia che nie due se sbianco e non mi enzas manco no, anni, anni, mai di da mortu, zavida mia e confortu, ninna. No, anni, anni, romi di goromeu, sanu di ardedeu. Oh, anini, 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 anini.
Voilà alors berceuse en langue sarde, qui est la prière d'une mère pour l'avenir de son enfant qui vient de naître par Elena Leda.
Très belle cette berceuse.
Elle est très belle et Elena Leda est une grande chanteuse. Pas par la taille par contre, mais c'est une grande chanteuse. Voilà, alors ce petit jingle indicatif, Laurent, tu nous donneras le terme technique. Vous l'entendrez souvent dans nos émissions, parce que cette année, on l'a déjà annoncé la dernière fois, on va passer beaucoup de nos enregistrements liés à l'immigration italienne dans notre région. Et voilà pourquoi Dominique est là aujourd'hui et sera là aussi en 2016 sur d'autres interviews. Donc je vais lui laisser la parole, parce que l'interview d'aujourd'hui, c'est Dominique qui l'a réalisée.
Voilà, alors c'est une interview qu'on a faite en septembre. J'étais avec Micheline Duplan. On est allé voir Évariste Rota et sa femme. Ils habitent Saint-Marcel. Et de l'écouter comme ça pendant une heure et demie, nous avons trouvé que c'était un personnage qui avait plein de choses à dire. Alors, il a quelque chose de très particulier concernant l'immigration, c'est qu'il est arrivé en France à l'âge de 20 ans. Donc il a des choses à raconter sur l'avant-immigration et sur l'après. Et j'ai trouvé que ses propos méritaient qu'on les écoute quasiment intégralement. Alors Il faudra que les auditeurs soient un petit peu indulgents. On a fait, c'était au mois de septembre, il faisait chaud, on était sur une terrasse, on buvait un café, donc il y a les bruits de la ville et bon, l'enregistrement n'est pas de la qualité de certaines radios concurrentes, mais je pense qu'on entend bien ses propos et je pense qu'ils sont très intéressants.
Elle est d'autant plus vraie dans ce cas-là.
Elle est d'autant plus vraie, oui, merci.
Puis le fait effectivement qu'il ne soit pas venu tout petit,
voilà,
lui permet d'avoir une vision sans doute différente.
Complètement, si bien que bon, je crois qu'on peut dire qu'on avait en face de nous qui répondait à nos questions un homme heureux et je lui ai posé la question, un émigré heureux.
Très bien. Donc on va écouter
Évariste Rota.
Rota, Rota Évariste, originaire de Bergame, province, un petit village qui s'appelle Cedrina, à quelques kilomètres de la ville de Bergame, à Bergamasque. Parce que nous, en Italie, on ne parlait pas l'italien. On parlait l'italien ou à l'école, ou administratif, mais on parlait toujours le dialecte, pas le bergamasque. On allait même en ville, que pourtant la ville était encore assez importante. Mais on allait en ville, on allait au café, ou boire un café, un truc comme ça, manger une glace, on parlait bergamasque. Encore maintenant. C'est pas évident à venir dans un pays, d'arriver dans un pays où il faut parler français pour écrire tout comme ça. Je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, j'avais un vieux journal Dauphiné sur la bancarelle. Quand j'avais quelque chose à faire, je cherchais les mots pour pas faire des erreurs. Ah non, mais c'était la vie comme ça, quoi. Je me plains pas, hein. Moi j'ai toujours eu affaire avec des braves gens. Non, n'importe où je suis tombé, j'ai toujours eu affaire. C'était peut-être ma façon de... Non, j'ai toujours eu affaire aussi bien à l'usine où j'ai travaillé. J'ai toujours fait partie de meubles. J'ai commencé à Camus à travailler donc sous contrat de 63. Et j'ai fini dans la même boîte, mais ils ont changé trois fois de patron. Je faisais partie des meubles, je faisais partie des machines, jusqu'à la fin de mes jours.
Et c'était quoi comme entreprise?
Des mécaniques, mécanique. Tournage, ouais. Usinage de pièces, quoi. Ouais. Alors, c'était Toulon. Il avait pris la succession de son père, de son beau-père, pardon. Après, ils sont partis sous la Tour du Pin. Dans la Tour du Pin, ils se sont associés avec une maison Malin, à Corbelin, qui font des sans-soupes pour les métiers. Ils m'ont envoyé là-haut. J'étais un petit peu trembarré d'un côté et de l'autre.
Oui, tu allais à Corbelin.
Ça a toujours été... Mais enfin, on voyait du monde. Ça a toujours été... Oh, il y avait des hauts et des bas, hein, avec les collègues, des fois, c'était pas toujours, faut pas dire qu'est-ce que c'est pas, hein. Mais ça s'est bien passé, j'ai fini ma retraite comme ça, hein. J'ai arrivé à 60 ans comme ça.
Vous avez jamais eu la nostalgie du pays?
J'avais coupé un petit peu les ponts avec l'Italie, avec mon père. Mais lui, il venait, un jour, j'étais là, à Calmieux, un an ou deux après, il est venu me chercher, mon père.
Racontez-nous, si vous voulez.
Oui, non, mais c'est pas un déshonneur. Hein. Un jour, j'arrive, je vois mon père qui se pointe à l'usine, qui ne parle pas français ni rien, en voiture, il est venu pour me chercher. Ah non, mais c'est pas le blague. Je vois mon père qui est à l'usine. Je rêve, qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, il va vers le patron, puis il dit en italien, il dit, mais celui-là, il faut le foutre dehors. Hein. Il y avait un autre italien à côté, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors l'autre italien qui avait à côté de moi, il racontait qu'est-ce qu'il disait mon père. Il dit, bah, qu'est-ce que tu racontes ça, toi? Non, mais c'est vrai. Puis en plus, lui, il allait faire sa vie. Il serait marié parce que ma femme était décédée, ma mère. Oui. Elle était veuve, quoi. Mm-hmm. Elle serait mariée. Heureusement que je n'ai pas resté, sinon elle restait avec une femme. La femme à mon père, elle était 20 ans plus jeune que lui. Hein. Voilà. C'est là un petit peu les ponts que j'ai coupés. Moi, sinon, on allait tout le temps en Italie. C'est mon frère, Non, à la maison, là, avec les filles, on allait tous les années, passer 15 jours là-bas. Hein.
Et là, maintenant, vous vous tenez informé de ce qui se passe en Italie?
Oui. Oh, on a eu beaucoup de contact avec mes neveux, mon frère, oui. Spécialement mon frère qui est là-bas. Lui, il est vachement... Je veux toujours savoir tout, qu'est-ce qui se passe là. Il téléphone, là, puis il me dit, non, qu'est-ce que c'est cette histoire-là, comme ça. Et moi, je dis la même chose en Italie, qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, mais il y a des gens, le gros. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup bien de différence entre l'Italie et la France. Je crois qu'on est arrivé au moment, un moment, on est tous à peu près, comme dit l'autre, tous sur le même bateau. Alors.
Oui, avec beaucoup de problèmes économiques en France.
Parce que je me rappelle, il faut dire la vérité, dans les années 50, la France faisait 48 millions d'habitants, que l'Italie en faisait déjà 58. Et après, maintenant, ça inverse la tendance.
Comment vous faites pour Bah pour vous informer, vous, la télévision, non, peut-être, vous regardez la télévision italienne.
Oui, oui, oui. Un petit peu les journaux. Oh, ben j'ai mon neveu, il m'envoie tous les bulletins, les machins du coin là-bas. Oh, puis on est à 105 km hein, de où je suis né.
Oui, oui, c'est pas...
Mais pour aller à la frontière, à 250 km, c'est pas une énorme... Puis de toute façon, même si les journaux de chez nous...
Avec la Dodoche, c'était plus difficile.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. On avait fait une jumelage. On a fait une jumelage, la Saint-Hilaire, avec... Le pays de ses parents, ma femme, à Ovistali, Cornalba. Ah si, tout le monde avait participé, il faut les voir. On est allé deux fois déjà. Mais il faut aller voir le monde qu'il y avait. Mais à se demander. Puis je suis bien content parce que les villageois, les gens de Saint-Hilaire, les environs, oui, ils ont bien participé, ils se sont mis à quatre pas. Je reste là-dessus. J'ai toujours dit, ça m'a fait plaisir comme ça.
C'est, bah, c'est sûr.
On est allé là-bas, on a été à le village de... Vistalil, Cornalba, on est allé là-bas, ils nous ont reçus mais comme des rois. Hein. Pour oui, nous et tout, alors ah, on oui, était trois jours. Mm-hmm. Tous les jeunes, comme on a, alors on a fait un échange après, il y a l'équipe de foot, des machins comme ça. Mais ça se perd un petit peu maintenant, les jeux ils ont tendance à aller plus loin, à aller en Grèce.
Ouais, justement, vous dites on a fait, on est allé, ça veut dire que maintenant ça ne marche plus?
C'est-à-dire que deux ou trois ans, maintenant, ça s'est calmé. Ouais. Parce, déjà, il y a deux ou trois ans, j'ai eu des jeunes. J'ai vu des jeunes. Parce que maintenant, bon. Mais allez-y, si vous voulez, moi, je vous prépare. Ah, dès cette année, en Espagne, il faut que les
et
jeunes.
Il y a d'autres villages qui sont jumelés avec Saint-Hilaire ou simplement l'Italie?
Simplement l'Italie. Bien géré, impeccable. Non, non, il faut dire la vérité. Hein. C'est tout un ensemble. Hein. C'est suffisant qu'il y a un groupe qui se lance, il veut faire. Après, ça marche tout seul. Hein. Moi, maintenant, je vois qu'ils me disent les anciens, allez, on fait un voyage, nous, on y va. Il faut le faire maintenant, parce que dans quelques années, moi, j'ai plus envie de promener un quart. Hein.
Vous nous parlez de votre famille, là, vous avez un frère. Oui. Ils viennent vous voir régulièrement.
Oui, il est venu, là, pour un pack. C'est son fils qui l'a amené. Et il y a eu l'aîné qui est décédé, déjà. Mais j'ai les neveux de mon frère qui est décédé, donc ses enfants, ils viennent, là, voilà, ils sont tout contents. Mais quand je vais, c'est pareil, ils sont bien contents. Là. Tant que c'est comme ça, ça va. Si on arrive à garder cette chaîne-là, ça va. Mon frère là-bas, la Maillé, une cousine à son père, une Vistali. C'est le village, là, 900 mètres. Autrefois, il n'y avait même pas la route, là-bas. C'est arrivé en bas, et puis il y avait une amour là, une maison là, une amour là-bas. Et chaque coin de montagne avait une amour. Et ils arrivaient à se marier entre eux, mais pas avec celle-là, mais celle-là, c'est la famille de l'autre. Vous voyez, c'était toute une... C'est pour ça que souvent, ils nous disent, ils m'ont dit, mais oui, mais ils sont mariés, non, mais... Vistali, l'autre côté de la vallée, en face.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est tout. Tandis que moi, j'ai personne qui sont partis à l'étranger. Comme il disait mon grand-père, je ne comprends pas. Quand il est venu, au début, mon grand-père, il me disait, je ne comprends pas. Il faut croire que tu n'as pas bien envie de travailler, parce que du boulot, il y en a là aussi. Il me disait comme ça.
Ah oui.
Quand on veut, il me disait... Ouais, je me rappelle de ça, hein. Il m'en voulait, hein. Mon grand-père est parti à l'extérieur comme ça pour travailler. Hein. Et mon père, quand il est venu me chercher,
ouais.
Je croyais qu'il était venu.
Je croyais te ramener comme ça, mais
bon. Ouais, c'est la vie.
Racontez-nous un peu, si vous voulez, comment on est, quand on est jeune, jusqu'à une vingtaine d'années, en Italie, les années d'après-guerre, donc...
C'était pas facile. Il n'y avait pas comme en France, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y avait déjà en France à l'époque.
C'est-à-dire
que c'était tout limité. J'ai raconté, j'allais un matin, j'étais gamin. Parce qu'en Italie, c'est très croyant à l'époque. Ça, la religion, il faut pas la... C'est la République d'Italie. Je peux vous dire ça, parce que je suis né dans une famille qui avait un curé et un bosseur, côté de ma mère. Côté de ma mère, ils étaient 14. Et côté de mon père, 11. Pendant la guerre de 40, côté de mon père, il y en avait 4 partis à l'armée. Et 5e ne mort pas pour l'armée. Il était à l'armée, mais il est mort de... Il a pris coup froid ou maladie. Il est mort quand même au service. Quoi. Oui. Voilà. Alors, il y en avait un qui était en Russie, deux en Afrique, Et mon père l'a fait 9 ans entre la guerre et le service militaire. Il était 10, il a fait 2 ans de service militaire jusqu'à 32. Il est revenu le 32, il s'est marié et s'est déclaré la guerre. Il est parti en Afrique. J'étais le premier à être envoyé. L'Éthiopie, l'Érythrée et compagnie. 4 ans. Autrefois, on disait ça, c'était presidio. On appelait ça un presidio. Il y avait lui et un frère. Il est sorti de l'Afrique, il est reparti, il a fait la Grèce, l'Albanie, la Russie. 9 ans. Je vous raconte une anecdote à ça. Mon frère, il est le 37, il n'a jamais connu mon père. Il est rentré mon père d'Afrique, il avait il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et à l'époque, c'était comme on habitait, c'était une grande maison, il y avait des pierres. Mon frère, il est allé dire à ma grand-mère, « Mémé, viens voir, parce qu'il y a un bonhomme, il est lié à ma mère, à maman. » Vous voyez, il ne savait pas qui c'était son père.
Et bien sûr, bien sûr.
Mes frères aînés, tous les deux, ils n'ont jamais connu. Ils l'ont vu quand il était comme ça. Et à 4 ans, qu'est-ce que vous voulez voir qui? La vie était comme ça faite, nous, en étant gamin. Quand j'allais, moi, j'allais un matin, avant de me lever le matin, la première chose que je faisais, j'allais chercher le pain. Puis j'allais à la messe.
Tous les jours?
Tous les jours. Non, non, mais ça, il ne peut pas l'enlever, qui que ce soit. Tous les jours que Dieu fait, ce n'est pas 2 fois. J'allais à la messe, je prenais le pain en ramenant, 8 heures, je partais à l'école. Et pour aller à la messe ou à l'école, j'avais 2 kilomètres de route pour y aller. Je revenais, 2 kilomètres pour venir, 2 kilomètres pour aller. Et puis où j'habitais, je demandais à elle. Quand tombait la neige, ça tombait la neige, il faisait froid l'hiver. Hein. Je me rappelle que j'étais avec des sabots, des galoches. Ils n'avaient pas les pantalons longs.
Ah non.
Ils avaient les grosses chaussettes, elles montaient au-dessus des genoux pour tenir chaud. Non, non, mais quand je rentrais de l'école, comme c'était tellement froid, ma mère m'a fait tirer les chaussures, on mettait un petit peu les pieds dans le four pour me chauffer. Non, non, mais. Un exemple. Je suis allé la première fois au cinéma, j'avais 8 ans, moi. 8 ans. Je me rappelle, je suis comme ça maintenant. Et j'avais peur, parce que quand j'ai vu un film, c'est vieux ça, qui parlait que quand ils ont vu la locomotive, il y avait une admission, et moi ça m'a fait pareil, quand il y avait les chevaux qui venaient, je faisais comme ça. Non, j'étais 7. Puis attendez, le pain était compté, hein. Il y avait, on était 6, il y avait un morceau de pain chacun, il n'y avait pas 2. Hein. Je me rappelle qu'en rentrant un jour, il y a un beau chien qui me suivait, un beau berger allemand. Je ne dis pas comme ça. À force de donner du pain, derrière la maison, il y a manqué du pain. Hein. Vous savez, ça, c'était pas la joie, hein, la journée, pour expliquer tout ça. Le médecin arrivait jusqu'à la porte pour rentrer chez lui après de manger son pain.
Voilà, vous êtes bien sur 97.1 Couleur FM et on est en train d'écouter un des recueils, enfin, disons, des récits que nous a conté monsieur Évariste Rota sur son émigration en France. Alors, on va écouter un chant non pas de Bergame, mais de la même région, puisque c'est un chant de travailleurs de Brescia qui était venu en France, donc, lors de la grosse vague d'immigration. Et ce chant s'appelle Caramoglie di nuovo ti scrivo. Chère épouse, chère femme, je t'écris à nouveau. Alors, je t'écris à nouveau. Je me trouve près de la frontière française. Cette année aussi, j'ai peu d'espoir de pouvoir de t'envoyer de l'argent. La cuisine ici est assez chère et on n'a pas beaucoup, notre paye n'est pas très importante. Les Bresciani, puisque c'est des habitants de Brescia dont on parle, vont au galop car ils ne peuvent plus supporter cette vie. Chère épouse, je t'écris à nouveau. Et puis, la fin lui conseille de donner ce qu'elle a, de le donner plus aux gens dans le besoin qu'aux prêtres et aux frères. Donc, cara moglie, di nuovo ti scrivo.
Cara moglie, di nuovo ti scrivo che mi trovo ai confini della Francia. Anche quest'anno c'è poca speranza di poterti mandare dei danè. La cucina le è molto assai cara e di paga si piglia assai poco, e i bresciani se ne vanno al galoppo. Questa vita la posso più far. Cara moglie, di nuovo ti scrivo di non darla né a preti né a frati, e dalla pure ai più disperati, che nel mondo la pace non ha, e dalla pure che nel mondo la pace non ha.
La chanson que vous venez d'entendre est de Gualtiero Bertelli.
De l'école, je peux vous raconter, moi j'avais une dizaine d'années. Il faisait la fête de l'école. Une dizaine d'années, 9-10 ans, allez. Et il fallait tous avoir une blouse noire. Après la guerre déjà, dans les années 50, une blouse noire. Et comme moi, je n'ai pas la blouse noire, la maîtresse, la directrice, elle dit, tiens, c'est toi. Mais comme mon vert n'était pas trop, encore tendance, un petit peu encore, plutôt rouge que noir, bah, pour le dire, hein, ma femme est là, hein, mon père, était comme ça. Hein. Oui. J'en voulais à la maîtresse, là, toute sa vie. Pourtant, elle était bien, hein, parce que pour l'école, elle était, mais elle était encore, la gardée saute. Non, mais... Ça, il ne peut pas m'enlever ça. Il y avait une manifestation monument aux morts en Italie. Mm-hmm. Mon père l'avait fait 9 ans de guerre. Il était cité à l'honneur parce qu'il avait fait tous ces ans de guerre. Mm-hmm. Il faut préférer non, compagnie. Mais comme il était un bisbris avec le maire, qu'il était encore un des anciens de l'autre côté, il ne l'a pas été. Tout le monde allait lui dire le matin, si, il faut venir, tout comme ça, je m'étais. Il dit, non, mais vous me tirez quoi? Ah ouais, nous assommes, mais maintenant il faut aller. Non. C'est toute une anecdote, ça. En étant gamin, tu gardes bien sur toi. Hein. Et ça dure longtemps après. Hein. Mais chez nous, mon frère, l'aîné, le pire, sur un pont, on a trouvé quelqu'un qui l'a balancé d'en bas. Hein.
Mais ça, c'est après la guerre.
C'est après la guerre, voilà. 7-8 ans après encore.
Donc dans les villages, il y a des haines.
Oui, encore maintenant.
Des rouges, des noirs, des blancs.
Encore maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
Des pères en fils, si.
Ah oui.
Alors, on peut raconter. Les belles, ils sont servis. Moi, je croyais qu'elle était morte. Elle était partie des villages. Parce que, bon, pendant la guerre, elle avait fait un petit peu mariole. Enfin, elle n'était pas mariole, elle était extrême droite. Enfin, il commandait un petit peu dans le village. Mais puis, après la guerre, ça tournait un petit peu comme ça. Elle était partie du village. Ils l'ont tué, malgré tout, après, les 50 ans, 52, 8 ans après. C'est des gens comme ça en Italie, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Rancunier, hein. Rancunier, moi, écoutez, tu te rappelles l'oncle de mon père qui est venu au mariage? Il racontait qu'elle était à l'usine. Il y avait à l'usine en Italie pendant la guerre, il mangeait le bol de soupe. C'était la soupe de haut lieu, là.
Du chef.
Du chef, oui. Alors, avant de commencer à manger la soupe, il faut écouter le discours.
Bien sûr.
Et au parleur, la fatouère, un truc comme ça. Et puis, lui, il venait juste de perdre son fils en Yougoslavie. Donc, à mon père, c'est lui qui l'a raconté, là, en bas. Et il dit, alors, il avait tout son bol de soupe, il dit, tu veux pas celle-là aussi, non? Quand il est sorti de l'usine. Donc, un, qui est maintenant, Ils étaient deux sur la porte du portail quand ils sortaient. Ils disaient, toi, viens un moment là. Ah. Oula.
Ça sonne. Purge.
C'est dans mon carton.
Ah, c'est vous.
Pardon.
Purge. Vous savez qu'est-ce que c'est ça, la purge? De l'huile de vidange.
Oh. De l'huile de vidange.
Ah, oui, si, si. Une verre d'huile de vidange. Ah là, c'est pas la blague. Oh, ça se faisait bien là-bas. Oh, on rigolait. Elle lui racontait. Et puis, des gens des pays. Des... Ouais, mais comment vous voulez faire après? Ça veut dire, je m'a pardonné, mais on n'oublie pas. Hein.
C'est un village de combien d'habitants? Enfin, c'était...
Oh, maintenant, il doit faire 3000 habitants.
3000 habitants. Et à ce moment-là?
1000 habitants.
1000 habitants.
Mmh. Oh, maintenant, ça pousse les maisons. Là. Il n'y a même plus de place pour, comme dit, pour se promener.
On a combien de Bergame?
12 kilomètres.
12 kilomètres. C'est une région. C'était une région agricole?
Non, plutôt industrielle.
Plutôt industrielle.
La région est beaucoup industrielle, c'est vrai.
Donc c'est pas une région pauvre?
Non. C'est une des régions les plus. De la Lombardie, les plus riches de la Lombardie.
Là maintenant, mais à ce moment-là.
À ce moment-là aussi. Il y a toujours eu du textile, aux carrières de chaux, des ciments, des usines de métallurgie, un truc comme ça. Si, bien sûr.
Les gens avaient du travail.
Mais enfin, il y a toujours plus ou moins de travail. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a toujours du travail. Voilà.
Et alors, vous disiez, le pain était compté, mais il n'y avait quand même pas trop de privation.
Vous mangiez bien parce que ton père faisait du troc.
Oui, il avait un camion, il allait toujours récupérer des pommes d'ici et de là.
Une chèvre, un truc comme ça.
Et puis à l'époque, quand mon père travaillait là, tu sais, après la guerre, ça durait 3-4 ans, il n'y avait pas d'argent, c'était tout par...
C'était tout par troc.
Il prenait un mouton, il livrait de la chaux, par exemple, aux paysans, il donnait un petit cochon, un quart de cochon, un truc comme ça. Après, il fallait le trouver à le vendre encore. Alors, nous, on était un gamin, on faisait que ça, dans les maisons, on demandait qui c'est qui voulait une caisse de pommes, un truc comme ça.
Et là, vous allez jusqu'à, je ne sais pas si on disait comme ça à ce moment-là, l'élémentaire, le boulot, le travail.
Si, sono andato. Je suis allé un petit peu à une école le samedi pour la mécanique, dans la mécanique.
Ah oui.
J'étais 2 ans.
Formation professionnelle.
Voilà, un truc comme ça. En vacances sur la mer. Dans les années.
Il avait déjà 49.
49 ans. Il a 49. J'avais 7-8 ans à Bordighera, en province d'Imperia. Presque sur la frontière. Je m'en rappelle toujours parce que c'est la première fois qu'il a vu, dans le train. Un noir. J'ai jamais vu noir.
Ah bah oui.
Elle m'a appelé toujours, j'étais à la vitre du train comme ça, regardez le noir qui est sur le quai là-bas. non, mais c'est sûr.
Oui, mais je vois bien.
Mais c'est gamin, j'ai jamais vu tout ça.
Bien sûr.
On a entendu vous parler sur les livres, un truc comme ça,
on voyait. Images,
mais j'ai jamais vu le bonhomme noir. Mais il était là, c'était bien noir. C'était militaire américain.
Oui, j'allais vous demander des bases américaines. Il y en avait dans la région de Berg?
Non.
C'était où? Vérone.
Voilà.
Et tu es parti au bord de la mer comment?
Avec
une
colonie de vacances. Ouais. Je me rappelle, j'arrivais à la mer, toutes les maisons étaient toutes en ruine. C'était sur la côte.
Ils étaient bombardés.
Ouais. Et je me rappelle qu'il y avait toujours encore « Vive le douche !» « Abbas le douche !» Non, mais
oui, ça marque, bien sûr.
Il y a même comme ça. Ouais. Mais je n'aimais pas, moi, là-bas. Oh là là, je m'en suis dit. Oh là là. la mer, l'eau, tous les jours, le même trajet. C'était les bons soeurs qui tenaient cette espèce de pension, là. Dans la majeure partie, c'était des bons soeurs. C'était presque sur la frontière, puis ils nous apprenaient à chanter en français.
Ah bon?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez chanté en français?
J'ai perdu la clé de ma clarinette. Bien sûr.
Non, mais...
Ça, pour une autre encore, je ne me rappelle plus. Une autre chanson encore, mais ça m'a toujours... Ils nous apprenaient en français. On va dire, on va bien.
Et c'était des sœurs italiennes?
Hein? Mais si, c'était...
Ah bon?
C'était sur la limite, Imperia, face à de Nice. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, après l'école, vous apprenez le samedi le boulot, et puis un jour, il va y avoir le service militaire, non?
Ah oui, mais moi, j'étais santé de service militaire, parce qu'il y avait mes deux frères.
D'accord.
Ils ont fait les premières deux, et le troisième, j'étais... Mais je n'ai pas attendu qu'ils me le disent, et c'est parti avant.
Parce Parce que c'était combien d'années à ce moment-là le...
18 mois.
18 mois. Ouais. Ah oui.
J'ai passé mes 3 jours.
Vous avez passé vos 3 jours.
Quand il y a 3 garçons, oui. Les deux premiers sont partis, le troisième
ou vice-versa. Ouais. Ces premiers ne l'ont pas fait, les autres deux ils le font. Mais là c'était comme ça, ça a bien tombé, il m'a trouvé. Ouais. Comme disaient mes frères, tu peux toujours payer à boire. Hein.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait en week-end quand on est jeune, quand on a 16, 18, 20 comme en France j'imagine, mais bon.
À part jouer un petit peu taper dans le ballon chez nous, ou faire du vélo. Parce que c'est la région qui fait beaucoup de vélo.
Ouais. Ah ouais.
D'ailleurs, on a eu pas mal de bons immondis. Mon village, on allait à l'école ensemble.
Ah oui.
Ouais, oh là là. Ah, c'est l'unique qui m'écrivait tout le temps. Quand il est allé au championnat au Japon en 64, il m'a envoyé une carte. L'unique qui m'écrivait une carte.
Vous l'avez gardée?
Oh, mais je m'en rappelle.
Oui, puis il a un gant aussi.
Un gant. Il m'a donné le gant de.
Il était allé le voir quand il faisait les 6 jours à Grenoble.
Grenoble, j'ai le voir, ça.
Ah oui,
on avait les copains, puis après.
Ils habitaient comme d'ici à la maison, là. Hein. Ils habitaient.
On allait à l'école, la même école que nous.
T'étais quelqu'un de sympa?
Ouais, c'est vrai. En étant jeune, on a fait les 400 coups avec.
Timide, quand même. Timide un peu.
Oh! Timide quand il ne connaît pas bien, mais enfin. Mais j'ai perdu vue après, bon, il s'est marié, il est parti.
Alors le foot, le vélo, les filles.
Les filles Oh, mais les filles, il y en avait, il fallait courir. Mais c'est pas comme maintenant, les filles. Attendez, si, moi j'aime bien les danser.
Encore, ils aiment beaucoup danser. Hein.
Oui.
Ah oui. Même étant mariée, avec des enfants.
Dès qu'il y a un fan de village.
Ma nièce. Et ils vont au cours de danse.
Ils vont au cours de danse en plus dans la semaine.
Et ils vont danser tous les samedis et dimanches. Mmh. Chacun leur tour.
Mmh. Chacun son tour.
Ah oui, mais danser. Vraiment.
Et vous dites jeune et moins jeune.
Ah oui, oui.
Tout le monde.
Parce que je vois même les petits là qui sont venus, ils ont 16 ans. La fille, elle danse comme... Ouais. Mais pas de la danse... vraiment la danse... Les danses...
Ben oui, mais je faisais tous les jours quand j'allais travailler. Avant de travailler, j'ai commencé à travailler à 14 ans. À l'époque, je faisais 30 ans. Mais de 12 à 14, j'ai livré tous les jours en vélo de la marchandise, du tissu, des machins comme ça, pour des magasins, pour le magasin, tout. Mais tous les jours, je faisais minimum 10 à 20 kilomètres par jour. Été comme hiver. Neige au froid, on était bien content parce que tu me faisais la gratte, j'ai gagné un petit peu d'argent.
Bien sûr.
Mais ça a duré 2 ans. Hein. Après, j'ai commencé à travailler, c'est là que ça m'a ruiné. J'ai travaillé, comme apprenti, on ne paye pas. Ça ne paye même pas. Même la deuxième année, ça ne paye même pas la lessive des bleus de travail. Moi, j'ai vu quand je suis arrivé, il y avait des jeunes qui ils avaient 16-17 ans. Ils n'étaient pas bien payés. Mais c'était comme ça. Bon. Mais je n'ai fait que des kilomètres en vélo. Pour aller au boulot, en vélo. Sauf qu'après, une fois que j'ai fini mon apprentissage, 3 ans après, je suis descendu en ville à travailler. Ça m'a permis de prendre un abonnement pour le train. L'hiver. Mais l'été, pour gagner 2 sous, pour avoir 2 sous, je faisais avec le vélo. Je disais que j'avais pris l'abonnement, mais je prenais le vélo parce que ça m'arrangeait. Comme ça, ça m'a fait 2 sous de poche. Pour ne pas sortir le samedi avec les copains, au dimanche. Pas samedi, le dimanche, parce que nous, on travaillait samedi comme les autres jours.
Combien d'heures par semaine de travail
à ce moment-là, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on faisait bien ça aussi.
Ah non, mais bien sûr.
Quand je suis arrivé, là, c'était comme ça.
On ne se représente plus maintenant.
Non, c'est vrai.
Mais moi, je demandais à elle, j'ai toujours fait minimum 10 heures par jour, samedi compris. Heureusement. Sinon, je n'aurais pas pu faire qu'est-ce que j'ai fait. Avec 8 heures par jour, je n'aurais jamais fait plus. Et pourtant, je faisais du vélo aussi à l'époque. Marie, je faisais du vélo, on a fait des choses, malgré tout. Ah bon, c'est des bons souvenirs quand même. Allez, on a eu la santé, on a fait qu'est-ce qu'on a fait, un petit peu à la fois. Maintenant, aux enfants de faire la même chose, s'ils peuvent. mais ce n'est pas évident pour les jeunes.
C'est difficile. Hein.
C'est difficile, oui.
Ah oui, mais ils ont les mains liées. Ils n'ont pas la possibilité de faire un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, c'est comme ça. Un gars qui a envie de travailler, il faut le laisser travailler. Tout le monde veut mettre un petit quelque chose, dicter, on ne sait pas.
En Italie, c'est pareil aussi. Hein.
Ouais,
j'ai entendu tes neveux et tes nièces qui sont venus, pareil.
Hein. Ouais. Ah oui, mais maintenant, c'est ouais, oui, mais ça vient d'où? C'est là-haut, hein. Et c'est pas nous qui avons dit à l'Assemblée, ils vont voter une loi. Si à Bruxelles, là-haut, il n'en veut pas, il dit c'est pas bon. On a deux députés en France et puis députés en Europe, de l'Européenne. Alors, ils sont allés, comme il dit toujours, ils sont allés plus longtemps à l'école que moi. Alors, ils ont eu
je voyais venir.
Et la maison, hein, sans rentrer dans les détails, bien sûr, vous y êtes depuis.
Depuis 81. Mais là, vous voyez, là, il y avait quatre propriétaires, là. Parce que les jardins, ils étaient coupés en quatre. Chaque fois qu'il y en a un qui voulait me vendre, je l'achetais, puis voilà. Là, c'était une grange, là. C'est moi qui a fait, là.
Donc, des heures de travail en plus.
Ah oui,
ouais,
voilà.
Le soir,
voilà.
Après le travail.
Ah, oui.
Voilà. Mmh. Jusqu'à minuit, une heure, hein, le soir. Et puis, à l'époque, ça ne me gênait pas de partir à 5 heures du matin pour le boulot, vous pouvez dire, mais à l'époque, on payait les heures, le supplémentaire, ça faisait une bonne épinard, comme on dit.
Bien sûr, bien sûr.
Mais là, ils font autant 5 heures, et puis les pauvres. Quand il y en a deux à travailler encore, ça va. Dans une ménage, ils font deux à travailler.
Oui.
Mais quand il y en a qu'un, comment il fait
Pour payer.
Nous, on avait. Bon, elle ne travaillait pas plein compte, moi, je ne faisais rien. J'avais une paye pour la maison, puis une paye pour vivre. On partait au ski. Que maintenant qu'un peu, on n'y va plus. On partait à Saint-Florent tous les ans, on demandait à elle.
Ah oui, ça a duré.
Et l'été, on allait en Italie ou ailleurs.
Et, oui.
Et l'hiver, on partait. Tous les semaines, tous les hivers, on prenait une semaine de ski. Et maintenant qu'on peut. On pourrait y aller maintenant. Ouais, maintenant, j'ai plus envie d'épater les copains maintenant. Mais oui, mais c'est ça. Hein.
Ah bon,
on avait épaté un petit peu les copains, les enfants, un truc comme ça. Mais maintenant, bon, c'est les enfants qui nous attendent maintenant.
Non, mais on a un beau truc en France. Il y a des belles choses en France.
Oui, oui. C'est vrai.
En tout, mais si on n'arrive pas à garder, ça explose, ça va. Moi, j'ai toujours dit, hein, même quand j'ai travaillé, pourtant, j'ai un petit peu de responsabilité dans les boulots, hein, malgré mon parler. Mais toujours dit, hein, si je pouvais donner un coup de pouce à un jeune, j'aurais toujours fait.
Oui.
Mmh. N'importe qui. Mais maintenant, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Les jeunes, mes filles, mes enfants, ça va. Mais j'ai peur de la
génération
à venir. La troisième génération qui vient.
Je vais employer ce mot-là parce que c'est quand même la réalité. Vous êtes un émigré heureux.
Ah, moi, qui c'est qui n'est pas heureux?
Ah non, mais.
Heureux comme un immigré. Je ne vais pas dire comme un Français. Ce serait un petit peu.
Je pensais bien qu'il n'allait pas pleurer.
Moi aussi, mais
parce
bon, j'avais envie de l'entendre.
Ah,
non, on est bien. Non, mais sincèrement, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui nous manque? On a la santé, comme je disais tout à l'heure, on a construit un petit patrimoine, une maison, un jardin. J'avais un chien maintenant,
casé,
ils travaillent tous, c'est important.
Bien sûr, c'est important.
Alors,
c'est
le plus important. Vous avez la double nationalité?
Non, c'est-à-dire, je l'ai, mais je ne me suis jamais occupé.
Mm-hmm.
J'ai laissé tomber, donc, quand je me suis fait naturaliser français. J'avais
le passeport,
tout ça, il fallait aller moi-même.
Même les filles.
Ah oui.
Elles avaient la double nationalité.
Ah oui.
Mais maintenant, je ne sais plus si c'est
maintenant, bon, les passeports, ils ont. Je les ai, hein. Il aurait fallu
il
faire.
Il aurait fallu les faire
à chaque fois,
oui.
Voilà. Mais elles avaient.
Je ne sais pas comment ça marche. Actuellement, je ne sais pas comment. Pourquoi faire, pour aller où?
Mais tu recevais toujours, pendant un certain temps, tu as reçu la carte.
Pour
aller
voter.
Ouais. Chaque fois qu'il y avait des élections, là-bas, il recevait sa carte. Le
voyage payé.
Oui, mais de la frontière.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Oui.
Oui. Oh, ça a duré longtemps. Hein.
Oui.
Et je peux vous demander, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens qu'on retrouve, par exemple, à Lampedusa,
ça c'est un gros problème.
L'Italie, elle souffre de ce problème. Elle a beaucoup de mal, parce que c'est extraordinaire. Comme afflux de population.
Moi, je suis immigré. C'est quand même pas à moi à dire.
Non, voilà. Bien sûr que non, mais...
Mais pour moi, c'est un gros... Ça va pas bien. Ça va être un gros problème pour l'avenir. Maintenant, c'est rien, quoi. Vous allez voir. Mais j'aimerais bien ça qui est venu là, à Pâques, là. La touche de la retraite de son mari, donc la réversion de son mari, 950 euros par mois. Là, chez nous, très catholiques, il y avait des maisons qu'ils allaient faire les retires spirituels, comme ils faisaient autrefois dans les maisons catholiques. Comme il n'y en a plus maintenant qui vont faire des trucs comme ça, ces maisons sont vides. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tous ces gens-là. Ils touchent combien? 300 euros par semaine. Ils donnent. Alors, calculez.
Oui, ça fait plus. Voilà. Et elle a dit qu'il y en avait 60 dans cette maison.
Oui, ben oui, il y avait 300 pièces pour gérer. Et tous les matins en partant, quand ils sortent, ils vont se promener, ils donnent 2,50 € pour le café.
Et c'est où ça? C'est
là, à Bergam. C'est juste à le village où j'habite. De son pays. Hein.
Alors, il me disait, moi je trouve ça normal, c'est tout scandaleux. Parce qu'il touche plus que moi, que mon mari a toujours travaillé, elle aussi l'a travaillé un petit peu, mais bon, avec la réversion, ça n'est pas beaucoup. Lui, il était artisan.
Elle dit, ils sont pourtant près de la montagne, hein. Et bien ils arrivent jusqu'à là-haut. Hein.
Ah oui, mais ils sont quasi partout.
Ils sont nourris, logés, en plus on leur donne...
Alors, il raconte une anecdote à ça, parlant d'immigrés, gendarmerie et compagnie. Un jour, j'ai fait au boulot. J'ai un collègue, il avait une deux chevaux, pareil que moi. On se trouve toujours sur la place de Crémieux, la place de Tilleul, vous voyez où c'est?
Oui, oui.
La place là, on part à une heure et demie pour le boulot. Puis il y a un collègue qui arrive avec une deux chevaux, et il arrive, tout content de nous faire voir sa deux chevaux, je dis, on l'a essayé. Sur la place, j'ai fait un tour un petit peu vite.
Tu sais, voilà. Oui, pour l'essayer. Quand jeune, oui.
Ouais. Jeune comme moi. En face, il y a la gendarmerie, il y a le chef qui m'appelle. Viens voir là. Moi, comme bon. Bon, étranger, pour ne pas avoir de problème, je vais le voir. Il voulait m'envoyer en Italie.
Pour retourner sur la place en deux chevaux.
Parce que j'ai fait trop vite le tour.
En deux chevaux.
Non, mais attendez. En plus, il y avait donc Vernet, une jeune âme, qui perd la machine, et l'autre chef qui a dit... Et Vernet, il me donnait des coups de pied dessous. Parce qu'il connaissait bien, mais son fils, il faisait 400 coups avec nous. Et quand il m'a donné des coups de pied, j'ai dit, mais arrête de me donner des coups de pied, merde, alors.
Voilà, alors en début d'émission, on parlait de Renzo Arbore qui disait qu'il fallait que des chansons soient traduites de Fabrizio De André, notamment, à l'étranger. Alors, Fabrizio De André a été traduit notamment en Italie, mais en dialecte. Et puis, comme aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Lombardie, donc on va entendre une de ses chansons, qui est la chanson du mois de mai, suite aux événements qu'il y avait eu au mois de mai, en 68, et qui va être interprétée en langue lombarde, enfin en bas milanais exactement, par le groupe Baraban. Et c'est une chanson que j'avais envie d'offrir à Dominique Molin parce que je sais qu'il aime beaucoup ce groupe. Voilà, alors on va finir cette
Baraban,
émission.
Baraban, extraordinaire. Et donc très bien.
On va finir l'émission avec Baraban. Et pour dire à tous nos auditeurs une nouvelle fois de bonnes fêtes. Et puis rendez-vous à l'année prochaine avec Inis, à l'écoute de l'Italie et avec Dominique Molin.
Pinci come se giega, i raspushing del match l'era normal, lui riteniva in alteo, anche per la galera, e aspettai ferà che rimaneva, la stessa rabbia e la stessa primavera. Anche se il nostro match, la fame del vostro coraggio, se la paghera de guarda, io ci va fa sbassà, se il fecla risparmia, i voster mille cento, anche se pensi deve essa sol, si anche vi alter coinvolto.
anche se pensa che propri sui cernienti. I fabbric der varang resteranno questi denti, convincherà un gè e quei che dure un po', pensi pur deve sa sol, ma si anche di alter cui vol. Sei sarà i fortun di vosterca, la notte i pule che se fave nalde tre, e si sta lì a vedere questa axel marcia a pe, e anche se adesso ve ne frega niente, gli alter seri lì presenti. E se in di voster tra propri niente cambia, anca uno sciopero, anca un striscium, anca un ferim, mesi cui un, e sei ciapa per ver, di balde la televisione, se pensi a mo deve sa sol, si per sempre cui in vol. E sei votammo perché tu sia come prima, la bissa di miracol, manganelle disciplina, con vinde cascia via, l'aria del cambia, degneremo a mo ai poster port, e useremo a mo più se fort, piccheremo a mo ai poster port, e useremo a mo più se fort, degneremo a mo ai poster port, e useremo a mo più se fort, piccheremo a mo ai poster port, e useremo a mo più se fort.